danse pour la formation de la personne. Normalement, la prudence, elle est vue en philosophie humaine, en éthique. Mais il peut y avoir un regard sur la prudence qui est un regard métaphysique. La métaphysique s'intéresse à tout. Elle a le privilège. Et le regard que j'ai au point de vue philosophique sur la personne, je vois que la prudence joue au point de vue pratique un rôle extrêmement important. Elle organise d'une manière immédiate. La sagesse n'organise pas d'une façon immédiate toutes les possibilités d'action que j'ai. C'est la prudence qui organise toutes les possibilités d'action que j'ai. C'est la prudence qui utilise toutes les vertus qui sont en moi et qui, sur certains points, désire que je fasse grande attention sur la tempérance, par exemple. Je prends un exemple. Un moment dans ma vie, dans la formation de ma personne, le contrôle des passions, du concupiscible et de l'irascible sont absolument nécessaires pour la personne. Vous voyez, il y a des personnes de... Je prends un type de personnes qui sont très grands, mais qui ont peuvent avoir une fragilité très particulière du côté de l'irascible. Ils se mettent en colère pour rien. Très très vite. On le sait. On passe sur un bouton, boum, ça y est. Ça nuit à la personne, ça. C'est une fragilité reconnue. Cette personne, elle est merveilleuse, mais c'est un peu effrayant si je ne suis pas d'accord avec elle. Tout de suite, c'est la colère. Et tout est remis en cause. Ou bien, c'est le concupiscible. Cette personne, elle est merveilleuse, mais attention, attention. Il y a une fragilité très grande du côté du concupiscible. On ne peut pas lui confier des jeunes immédiatement. Il les accapare. Il les prend. Il les prend pour lui. Et il ne s'en aperçoit pas. Il y a un aveuglement. Le concupiscible, c'est la maman poule qui garde ses petits en dessous, ses ailes. J'avais déjà vu une poule avec ses poussins. C'est extraordinaire. Et quand elle est prise en attaque, elle les appelle et elle les garde. C'est ça le concupiscible. Le concupiscible fait que nous gardons tout pour nous et nous ne le voyons pas. On est aveugle. Mais les autres le voient. Les autres voient, s'aperçoivent. Alors, il y a tous les degrés dans le concupiscible. Il y a des choses qui ne sont pas méchantes, puis il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Mais c'est le concupiscible. Les choses ne sont pas méchantes. Garder les enfants sous les ailes de la poule, la maman poule, c'est pas méchant, mais ça empêche les petits de grandir. Et on les considère toujours comme s'ils étaient tout petits. C'est très curieux. Le concupiscible accapare. Et la personne n'accapare pas. Une personne n'accapare jamais. Parce que la personne, elle est très soucieuse de maintenir la finalité de chacun. Or, accaparer ses petits poussins n'est pas la finalité. Elle est bonne quand le poussin est incapable de se défendre par lui-même. Mais maintenir le poussin comme poussin, incapable de se défendre par soi-même, c'est lui rendre un très mauvais service. C'est lui rendre un très mauvais service. Et il est persuadé, lui, dans son concupiscible, il est persuadé qu'il lui rend un très grand service. C'est très, très curieux de voir le langage de quelqu'un entièrement pris par le concupiscible. Il a besoin de moi. Et si je ne suis pas là, ça déraille, alors que ça va très bien. Il ne voit pas. Le concupiscible rend aveugle. C'est pour ça que c'est très difficile. L'irascible ne rend pas aveugle. L'irascible, on est conscient de se mettre en colère. Et on est conscient de dérailler. Un train peut aller très vite quand il reste sur ses rails. Mais dès qu'il quitte ses rails, ça devient dangereux. Et c'est ça l'irascible. Un irascible dominé par la personne et au service de la personne est bon. Parce que une personne qui n'a pas d'irascible, et on peut lui enfoncer tous les coups possibles, il ne réagit pas. C'est très ennuyeux. On ne sait plus quoi faire. On lui marche sur les pieds, il ne réagit pas. Inerte. Alors il n'y a pas de dialogue possible. L'irascible, c'est qu'on réagit à l'autre. Et on réagit en manifestant que l'autre exagère. Il s'occupe de quelque chose qu'il ne devrait pas s'occuper vis-à-vis de moi. Il s'occupe de ma finalité. Et il n'y a rien qui met plus en colère que ça. Sentir quelqu'un qui dit non. Comme une maman poule. Tu n'iras pas plus loin. C'est très très... Il ne faut pas oublier, hein. Les passions nous rendent semblables à une logique de similitude avec les animaux. La passion des animaux et la passion de l'homme sont univoques. Et l'homme peut avoir des passions beaucoup plus fortes que les animaux. Ordinairement, les animaux ont des passions plus fortes parce qu'ils ne sont pas éduqués. La passion du taureau n'est pas commode à encaisser. Quand l'homme est taureau, sans avoir été éduqué, il est plus terrible que le taureau. Parce que sa passion d'irascible, il faut avoir fréquenté dans sa vie des hommes où l'irascible est farouche. Alors on le sait, ça se dit. Ça se dit. Ah, touche pas à ça. Parce que très gentil, mais ce domaine-là, ça lui appartient. Alors on peut le savoir, quand on connaît, qu'on est l'ami de quelqu'un qui est très fort dans l'irascible, on peut arriver à préciser exactement la clôture de l'irascible. C'est pas être vertueux. Hein. La clôture de l'irascible, c'est tout simplement ne pas toucher au point vulnérable. Parce qu'il n'est pas assez vertueux. S'il était vertueux, il n'y aurait pas. Les points vulnérables seraient dépassés par la finalité. L'irascible demande d'être entièrement finalisé. Mais entièrement finalisé de l'intérieur, tandis que la clôture se fait de l'extérieur. Ayez dans la tête, parce que je ne le dis pas moi, ayez dans la tête tel ami que vous connaissez, qui est un irascible affolant. Ça existe. Bon, surtout pas le déranger à telle heure du matin. Arriver à telle heure plus tard, ça vaut mieux. C'est très curieux. Hein. C'est qu'on est dépendant de l'univers par l'irascible. Et donc, on est dépendant du soleil, de la lune. On est commandé par des choses sensibles. Et on a tous des points vulnérables, plus ou moins forts. On les a plus ou moins éduqués. Alors, on les a bien éduqués et on ne s'en aperçoit pas. Donc l'irascible et le concupiscible sont au service de la personne humaine grâce à la prudence. C'est par la prudence que mon irascibilité est au service de ma personne. C'est grâce à la prudence que mon concupiscible est au service de ma personne. Alors, je sais que que j'ai des déraillements du côté du concupiscible, que j'ai des déraillements du côté de l'irascible. Je le sais. Et que ça m'empêche d'être une personne agréable, aimable. Ça m'empêche d'être une personne à qui on peut confier en toute sécurité certaines charges. Alors que, à cause du concupiscible, de l'irascible, il y a des domaines où je suis fragile, comme un enfant. Et ça peut rester très bien avec ma personne. Il y a un trou, une fragilité. Alors, ce qu'il faut, c'est la cerner le plus qu'on peut pour arriver à ce que l'éducation qu'on a reçue n'a pas réalisé, et faut le réaliser d'une manière plus forte. Je m'éduque tout le temps. Ma prudence est toujours avide de dépasser le concupiscible et l'irascible. Et le concupiscible continue. Songez à cette passage de l'écriture de la belle Suzanne. Oh ben, et puis ces vieillards de 70 ans, on dirait 70 ans quand même, le concupiscible est un petit peu arrêté. Eh bien non. Il peut y avoir subitement, si la prudence n'est pas là, la prudence devait être là, vis-à-vis des vieillards. Le concupiscible joue autrement quand vous avez 70 ans que quand vous avez 40 ans ou 30 ans. Mais le concupiscible ne meurt pas. Et c'est la même chose pour l'irascible. Les passions ne meurent pas. Du reste, on ne cherche pas à tuer les passions. On cherche, la prudence cherche à les éduquer. La prudence les utilise. Ça fait partie de ma personne d'être capable de me mettre en colère. Ça fait partie de ma personne d'être capable d'embrasser. Ça fait partie de ma personne d'être capable d'aimer. Alors, vous voyez, la prudence, elle m'accompagne tout le temps. Et ma prudence est différente à 30 ans, à 25 ans, est différente. Elle s'exerce autrement à 60 ans. 70 ans, 80. Et la prudence est là pour guider le bateau au milieu de toutes les tornades, au milieu de tous les grands vents, au milieu de toutes les agitations. Donc, dépasser les passions, concupiscibles, irascibles, pour que je vois de plus en plus clair sur ma finalité. Le rôle de la prudence, c'est de me permettre de vivre d'une façon toujours plus profonde de ma propre finalité, l'amitié, la contemplation. L'amitié, la contemplation, l'irascible peut tuer l'amitié. Le concupiscible peut tuer l'amitié. La prudence est là. Il doit veiller. Il doit veiller et qu'il doit connaître d'une façon exacte la faiblesse qu'on a. Faiblesse du côté du concupiscible, faiblesse du côté de l'irascible. J'ai été mal élevé de ce côté-là, dans ma jeunesse, où j'ai des ancêtres qui, de ce côté-là, ont eu de graves faiblesses. Ils étaient ivrognes, concupiscibles. Alors, l'ivrognerie, tout le monde sait qu'il y a une ivrognerie pieuse. Les gens qui se précipitent sur vous, ils sont ivrognes. Ils se précipitent, mon père, je veux me confesser. C'est la déclaration du concupiscible pieux. Et au contraire, l'inverse, le concupiscible veut être furieux contre la sainteté. C'est très curieux de voir ça. De voir ça en nous et de voir ça chez les autres. Jusqu'au bout de notre vie, on devra être éducable du côté du concupiscible et de l'irascible. La passion, d'une certaine manière, elle n'a pas d'âge. Elle s'adapte. Elle se manifeste différemment selon les âges. Mais elle existe toujours, heureusement du reste. Même le vieillard a des crises de concupiscence, a des crises d'irascible. Très étonnant. Parce que l'irascible du vieillard n'est pas du tout le même irascible que de celui de 40 ans. On porte en nous ces choses, ces concupiscences, ces passions, on les porte en soi. Et elles varient selon les... Et on doit comprendre justement ces variations. Ça fait partie de notre personnalité. On sait qu'elles existent. Dire, oh, il n'y a pas de danger, je suis... À mon âge, quand même, à mon âge, il n'y a pas de danger. Ah, attention, il y a un autre danger. Le danger n'est pas le même. Mais le danger existe toujours parce que vos passions continuent d'exister. Différemment. La passion du vieux chien ou du jeune toutou, c'est pas la même chose du tout. Et chez les hommes, on retrouve ça. Le vieux chien, il se satisfait d'aboyer parce qu'il est le vieux chien. Il sait bien qu'il ne peut plus attaquer. Ses dents sont plus assez fortes. Il ne peut plus attaquer. Mais il aboie. Il aboie d'autant plus qu'il ne peut plus attaquer. Elle a transposé. Qu'est-ce que c'est que l'aboiement? Chez le vieillard ou la vieille fille, qu'est-ce que c'est que l'aboiement? C'est saper la réputation de quelqu'un. C'est ça l'aboiement. J'ai remarqué la manière dont il reçoit, il garde cette plaque à chocolat. Oh, volcan publicible. Et c'est vrai, le vieillard un peu aimait beaucoup les petits gâteaux. Et les aimait trop. C'est très curieux de voir l'évolution chez l'homme et chez la femme, l'évolution des passions. Et ça fait partie de la formation, ça, de notre personnalité. Un regard métaphysique sur nos passions. Nos passions sont bonnes, elles ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes. Elles sont mauvaises quand elles sont excessives. Autrement, elle est bonne. Supprimer les passions, c'est une mauvaise éducation. Il faut permettre d'utiliser toutes nos passions vis-à-vis de notre personne, vis-à-vis de la recherche de la fin, la recherche de l'amitié, la recherche de la contemplation. La prudence, c'est orienter toutes nos passions vers la fin. Faire que tout notre être, toute notre vitalité soit saisie par notre finalité. C'est ça, être vraiment sage. La prudence, c'est une sagesse pratique. C'est la sagesse pratique, c'est-à-dire, c'est ordonner toutes nos passions, concupiscibles et irascibles, vers notre finalité. Et vis-à-vis des rapports avec le prochain. Et les rapports sont différents. Et l'égard du prochain. Et il faut savoir se développer différemment suivant les circonstances dans lesquelles on se trouve. Garder un peu de souplesse. La vieillesse supprime la souplesse dans le corps et psychologiquement. La vieillesse forcément durcit pour que on puisse encore vivre. On garde certains mouvements, pas tous les mouvements, mais certains mouvements permet de continuer. Donc, la vieillesse fait tomber des quantités de choses secondaires pour garder uniquement celles qui sont nécessaires à acquérir sa fin. Alors, cette rigidité, elle doit être assumée par l'intelligence et le cœur. Pour qu'on ne soit pas insupportable. Le vieillard est insupportable dans la mesure où, justement, toute analogie, donc toute diversité disparaît pour ne garder que l'univocité. Le vieillard n'est bien que dans ce fauteuil. Là, dans ce fauteuil, il est de bonne humeur. Le vieillard a besoin de sa pipe. Il est heureux avec. Et il n'y a que ça. Et on lui laisse lui retirer, sauf si, pour sa santé, il faut le retirer. Mais autrement, on lui laisse les quelques détentes qu'il peut avoir pour maintenir un peu de souplesse et ne pas tomber dans l'univocité rigide, implacable. Au fond, le vieillissement d'une culture fait tomber dans l'univocité. On a perdu l'analogie. On a perdu le sens de l'intelligence. Et on tombe alors dans le fait que il faut partout l'égalité. Vouloir partout l'égalité, c'est un signe de vieillesse. Parce que c'est contraire à l'analogie. L'analogie est un signe de vitalité. Et de vitalité spirituelle. Mon intelligence se développe dans l'analogie. Mais la vieillesse vous fait tomber dans l'univocité. Et l'université gagne. L'université, ça se traduit par un manque de souplesse et d'être toujours dans la même université. Et ça, ça se voit au point de vue des cultures. Vous voyez, ces dernières lois qu'on a établies sont un signe d'une culture qui n'est plus une vraie culture. L'humanité faiblit. Alors, on établit des lois, parce que ça fait bien. On a l'air, en établissant des lois, qu'on domine encore, mais en réalité, signe de faiblesse. Alors on établit des lois pour tout. C'est très curieux, ça. C'est le signe d'une culture qui n'est plus une vraie culture. La culture devrait maintenir l'homme toujours au-delà de la passion. Alors quand, de fait, on établit les passions comme le bien, il n'y a plus de dépassement des passions. Et il y a un signe de vieillesse. Et cela fait que, à ce moment-là, les passions ne servent plus pour la finalité et que les passions s'opposent à notre finalité. On regarde toutes les passions avec le même regard, sans voir que certaines passions s'opposent à notre finalité et sont mauvaises. Et d'autres passions, au contraire, peuvent nous aider. C'est l'univocité qui revient. et qui s'impose. La prudence s'éteint et elle tombe dans l'univocité. Et au fond, à la place d'être des lois qui grandissent, qui permettent à l'homme d'être plus homme, les lois se servent des passions pour ennoblir les passions d'une manière fausse. Quand il n'y a plus de distinction entre le bien et le mal, la culture disparaît. Il y a un phénomène très curieux qu'il faut vivre, il faut essayer de comprendre et le comprendre du côté de la personne. Si on quitte le point de vue de la personne, c'est-à-dire de la finalité, on retombe dans l'univocité terrible des passions. Ce qui se passe actuellement pour la France, pour l'Europe. Phénomène de vieillissement. Et on ne s'aperçoit même plus. Il y a un phénomène très, très particulier. Bon. Tout ceci, c'est pour essayer de voir le rôle particulier de la prudence. Gouverner notre petite barque, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on est incapable de faire, savoir ce qui est pour nous quelque chose de bon ou ce qui pour nous est mauvais. La prudence sera là pour faire les distinctions entre le bien et le mal. Le bien, c'est ce qui me conduit à ma fin. Le mal, c'est ce qui m'oppose à ma fin, à ma finalité. Donc, la prudence fait partie essentielle de ma personne. À côté de la prudence, il y a l'art. Toujours complémentaire de la prudence. C'est vrai, normalement, la prudence passe avant l'art. Dans une civilisation décadente, l'art passe avant la prudence. Prudence et art sont deux frères jumeaux. Mais ils se battent l'un contre l'autre. C'est très étonnant de voir ça. Dans une civilisation montante, conquérante, victorieuse, la prudence passe avant l'art. Dans une civilisation décadente, l'art passe avant la prudence. Et ça, c'est relativement facile à comprendre. Pour chacun d'entre nous, nous avons dans notre vie une part d'activité prudentielle. Et nous avons dans notre vie une part d'activité artistique. Nous avons les deux. Mais évidemment, l'équilibre des deux est différent pour chacun d'entre nous. Et l'un est dominant, l'autre est au service. C'est très étonnant de voir que dans la civilisation n'est plus morale, n'est plus prudentielle. C'est l'art qui l'emporte. Donc, tout ce qui est efficace est bon. L'efficacité est devenue ce qui mesure tout, ce qui permet de qualifier tout. L'efficacité en art est dominante. Ça, c'est sûr. L'art me donne le sens de l'efficacité. Et j'ai besoin de ça. C'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir le sens de l'efficacité. Mais il ne faut pas que ça dépasse. La prudence ne me donne pas le sens de l'efficacité. La prudence veille à laisser toujours le primat de la finalité. Or, si je regarde autour de moi et en moi, je vois très bien que dans mes activités, il y a une dominante qui est l'amour. Et puis, il y a l'autre dominante, l'efficacité. Des personnes qui sont pour l'efficacité pure ne s'occupent absolument plus de l'amour. Ça devient quelque chose extraordinairement mécanique en quelque sorte. C'est ça uniquement qu'il faut regarder, l'efficacité. Le bien et le mal se jugent en fonction de l'efficacité et non plus en fonction de la proximité qu'on a avec la fin. Une activité bonne, c'est une activité qui m'unit à ma fin. Une activité mauvaise, c'est une activité qui m'écarte de ma fin. Bon, c'est la finalité qui joue ce rôle de montrer le bien comme mal. Lorsque on est en présence d'une fin de civilisation, la finalité disparaît et il n'y a plus que l'efficacité. C'est efficace. Et les choses vont très vite à se changer. Elles se changent en fonction de l'efficacité. Oui, vous n'avez qu'à regarder la manière dont on fait la propagande des objets à vendre, on montre leur efficacité. Et on ne montre pas comment ils atteignent leur fin. Le critère devient l'efficacité. Uniquement. Alors, l'efficacité vous permet de dominer, mais vous ne permet pas d'aimer. Une civilisation où l'efficacité devient première, c'est une civilisation qui va nécessairement vers la domination. Dominer. Et dominer de la manière la plus étendue possible et la plus forte possible. Et c'est cette domination qui commande tout. L'efficacité est nécessaire, elle est bonne, mais attention, il ne faut pas qu'elle soit première. L'efficacité doit être toujours seconde. Ce qui est premier, ça doit être notre finalité. Il y a un petit examen de conscience qui, je crois, est très nécessaire pour nous de voir si l'efficacité passe avant la finalité. La finalité, c'est aimer. L'efficacité, c'est réaliser. De fait, la réalisation passe avant l'amour, on tombe dans l'efficacité qui est première. Alors, à ce moment-là, c'est l'art qui l'emporte. Et pour tout, dans la contemplation, la logique l'emporte sur la contemplation. La logique, c'est l'efficacité de l'intelligence. Et l'efficacité de l'intelligence se traduit toujours en logique. Alors le primat de la logique, c'est le primat d'efficacité. Alors que le primat de la contemplation n'est pas le primat d'efficacité. C'est la vérité. Il y a là un partage des eaux qui est capital, à bien voir, au point de vue, justement, personne. L'efficacité est nécessaire pour la personne humaine, mais l'efficacité peut tuer la personne humaine lorsqu'elle est première. Un climat dans lesquelles l'efficacité est première, la personne disparaît. Et tout est ordonné à une efficacité, à une réalisation immédiate. L'efficacité, c'est la réalisation immédiate. L'amour, c'est la réalisation par l'amour. Et donc, elle n'est plus immédiate. L'amour passe avant. Au fond, c'est toujours amour, efficacité. Oui, le grand discernement est là. Et ça, c'est vraiment la prudence. Et là, on porte en soi les deux. Je porte en moi le primat d'efficacité. Là, je porte en moi le primat de l'amour, la prudence. Et je sais que c'est le combat radical. Le plus profond.